EMCI TV vous présente À table avec Annabelle, votre podcast francophone chrétien 100% féminin. Prenez place à table avec Annabelle pour des discussions authentiques, fun et profondes, empreintes de la parole de Dieu.
Hello, hello tout le monde! Bienvenue dans la table avec Annabelle pour ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, nous allons entendre l'histoire de Nancy qui a été frappée par une tragédie alors qu'elle avait 18 ans. Et vous savez, les tragédies, ce sont des choses qui interviennent de façon soudaine et on ne sait pas toujours comment réagir. Et ça peut être malheureusement des points tournants dans notre vie où il semble y avoir tout un tourbillon de circonstances négatives et on ne sait plus comment s'en sortir. On peut être face au découragement, à la peur, à la crainte. Et on va découvrir cette histoire de Nancy où elle a appris à compter sur Dieu, elle s'est confiée en Dieu et où toute la bonté de Dieu s'est encore une fois manifestée. Moi, quand j'ai entendu l'histoire de Nancy, j'ai été tellement bénie et inspirée à la fois par la bonté de Dieu, mais aussi par le courage de cette femme de voir comment elle s'est attachée à Dieu. Et je crois que vous aussi, eh bien, vous allez être encouragés. Je suis aussi aujourd'hui avec Aurélie encore.
Hello.
Fidèle au poste, Aurélie.
Fidèle au poste, Annabelle.
Merci, merci,
Aurélie. Je ne fais pas comme Stéphanie.
En effet. Stéphanie, si tu nous écoutes.
C'est pour une bonne raison qu'elle n'est pas là, Stéphanie.
C'est ça, Aurélie. Toute cette semaine, on a vraiment des beaux témoignages en début de semaine. Et là, encore en fin de semaine, on aura encore un autre beau témoignage. Mais aujourd'hui, j'ai hâte aussi que tu puisses rencontrer et écouter l'histoire de Nancy. Oui. Que nous allons accueillir tout de suite d'ailleurs parmi nous. Bienvenue Nancy.
Bonjour, merci beaucoup pour ce moment. Je suis tellement honorée, vraiment. Donc c'est une grâce pour moi encore une fois de pouvoir témoigner de Jésus et j'espère que ça va bénir beaucoup de personnes.
C'est certain.
Bonjour Nancy.
Écoute, Nancy, t'es super bien installée, en tout cas, c'est super beau. On dirait que c'est toi qui as eu l'émission. Écoute, on est très contente. Et comme je disais, on va aller directement en fait dans ton histoire. Comme je disais, tu as été frappée par une tragédie. Alors, comme le mot le dit, la tragédie, c'est quelque chose de soudain. Et est-ce que tu peux peut-être nous remettre un peu dans le contexte où tu as grandi, puis comment les choses se sont passées.
Alors, donc moi, je suis née en Guadeloupe hein, et donc j'ai grandi dans une famille vraiment chrétienne. Et à l'âge de 10 ans, donc ma mère a eu des symptômes qui sont arrivés d'un coup, on n'a pas compris. Et en fait, elle a connu une errance médicale pendant de très longues années où malheureusement, elle prenait du poids. Voilà, certains médecins disaient que c'était les hormones, d'autres disaient que c'était peut-être d'autres choses qui se déréglaient à l'intérieur d'elle. Mais il n'y avait pas vraiment de diagnostic précis sur ce qu'elle avait. Et donc du coup, après de multiples recherches, malheureusement le quotidien était là. Et donc j'ai un petit frère qui a 4 ans que moi. Et donc on l'aidait au maximum. Mon père entrepreneur, lui travaillait de manière acharnée puisqu'elle était limitée à cause des symptômes qu'elle avait. Elle pouvait pas se déplacer correctement. Donc, arrivé un moment, les médecins lui ont dit « Écoutez, madame, les choses sont en train de s'aggraver. Il faudrait partir en France pour éventuellement pouvoir mieux chercher quelle est l'origine, quelles sont l'origine de ces symptômes et donner en fait émettre un diagnostic précis pour savoir qu'est-ce qui se passe puisqu'elle n'arrêtait pas de prendre du poids malgré tout. Et donc du coup, mes parents ont pris la décision tout simplement qu'on allait venir en France pour dans le but qu'elle puisse se soigner. Et donc, ben, la Guadeloupe, notre petite île, franchement, tout se passait bien. Il y avait pas de souci. C'était une décision difficile pour nous, mais on s'est dit, bon, maman, elle souffre, on comprend. Il y a pas de souci, on va y aller. Donc, mon père, il est resté gérer son entreprise en Guadeloupe, et donc, on est venu ici en
France.
Et là,
tu avais quel âge?
À cette époque-là, j'avais 15 ans.
Et donc, à 15 ans, tu pars toute seule avec ton frère et ta mère en France dans le but que ta mère ait un diagnostic.
Voilà. Donc, arrivée en France, donc il y avait une cousine qui avait dit à ma mère voilà, qu'elle pouvait l'héberger. Et donc, il y a eu un petit souci entre-temps. Et finalement, elle n'a pas pu l'héberger à cette période-là. Et donc, on s'est retrouvés au 115. Et donc, à cette période-là, il y avait des hôtels où on pouvait séjourner pendant des courtes périodes. Le temps d'avoir un logement disponible ou que ma cousine, enfin la cousine de ma mère, puisse s'organiser pour nous laisser son appartement. Et donc du coup, on a eu, voilà, ça a dû durer peut-être six mois un peu plus long. Et finalement, la cousine de ma mère a pu trouver une solution et on a pu aller séjourner chez elle. Mais c'est vrai que c'était une période pas évidente. Et pendant cette période-là où on s'est retrouvés, ben, malheureusement à la rue, parce que les hôtels, en fait, le système d'hôtels, on pouvait pas faire à manger. Donc, on allait la journée, on sortait. Et donc, on allait récupérer à manger, soit chez Emmaüs, voilà, un petit peu où on pouvait. Et on mangeait ce qu'on pouvait manger, puisqu'on pouvait pas cuisiner à l'intérieur de l'hôtel. Mmh. C'était vraiment pas facile.
Et tout ça avec ta maman qui était malade.
Ouais. Toujours malade, toujours voilà, dans son état où elle était fragilisée. Et on arrive en France où la température n'est pas comme aux Antilles. Donc vraiment, c'était pas facile. Mais ma mère, franchement, c'était une femme souriante. C'était une femme, elle voyait toujours le verre à moitié plein, toujours optimiste. Et donc, du coup, elle nous a transmis ça. Et donc, même si c'était difficile et tout, elle nous disait ça va aller, Dieu va pas nous abandonner, vous inquiétez pas. Et on continuait à aller à l'église, on a trouvé une petite église où on a allé. Et je me rappellerai toujours de ce message-là où, bah, à cette période-là, on se retrouve, on est un peu bah, SDF. Et il y a quelqu'un qui dit à ma mère, vous allez avoir des maisons, madame. Et ma mère, elle regarde, elle dit « Ok, d'accord, ok, bon, si c'est Dieu qui dit, on va prendre. » Et en fait, on a gardé cette maison-là, cette parole-là, et on s'est dit « Ok, bon, Dieu a quelque chose de bon pour nous. Peut-être que c'est des temps difficiles, mais on va y croire, on va garder la parole. » Et donc, du coup… la bonne nouvelle est arrivée, on a pu intégrer le logement de ma tante, enfin de ma mère. Et donc, franchement, on s'est dit, bon, c'était un soulagement et tout. Cependant, les médecins, ils commençaient vraiment à inquiéter ma mère et lui dire, écoutez, madame, vous êtes en obésité morbide. Il faut absolument trouver une solution, faire une intervention. Et donc, ils lui ont proposé de mettre l'anneau gastrique. Et donc, et ma mère, elle pesait déjà 200 kilos au moment où je vous parle. Et donc, j'ai vu ma mère vraiment souffrir du regard des gens, souffrir parce que elle voulait faire plein de choses, mais malheureusement, elle n'y arrivait pas à cause des douleurs. Et je devais prendre le relais sur pas mal de choses. Donc, dès très jeune, je savais déjà faire des démarches administratives, je savais déjà gérer une partie des finances, aller retirer de l'argent. Si elle avait besoin de faire, je pouvais prendre le relais. Et donc, elle a dit OK pour l'anneau gastrique. Donc, elle a fait l'opération. Tout s'est bien passé et tout. À arriver en France, il fallait aussi qu'elle puisse avoir une source d'entrée d'argent. Donc, elle était aide-soignante. Elle s'est dit, OK, je vais travailler. Ce qui s'est passé, c'est que un jour à son travail, il y a un patient. Il a fait une crise, un délire en fait. Mm-hmm. Et il, en la poussant, il l'a vraiment frappé au niveau de la stoma, donc au niveau de l'anneau. Et en fait, l'anneau, c'est en... Et donc, elle était vraiment pas bien. Et le soir même, il fallait enlever, en fait, ils ont dû enlever l'anneau parce que elle a reçu un mauvais coup, en fait, à ce niveau-là. En urgence, ils ont réussi à enlever sans dégâts l'anneau, mais ils lui ont fait comprendre que son estomac était fragilisé. Et donc là, elle avait toujours ce problème. Et oui, une partie que j'ai oubliée, c'est que l'anneau avec elle, il n'y avait pas eu de résultat, en fait. Elle, voilà, elle a pas du tout senti de diminution au niveau de sa faim. Enfin, elle le mangeait normalement. Enfin, et elle continuait à prendre du poids. Donc, de toute manière, l'anneau n'avait pas fonctionné pour elle. Donc, c'était quand même prévu qu'elle le retire parce que pour madame, il faut qu'on trouve une autre solution parce que ça ne fonctionne pas avec vous. Donc là, son estomac avait été fragilisé. Il fallait attendre un peu avant de penser à une autre intervention. Donc, elle s'est dit, bon, entre-temps, elle va essayer de faire du sport. Franchement, elle a tout essayé, ma mère. Elle a vraiment tout essayé. Enfin, les régimes. Voilà, on est... On a prié, enfin voilà, c'était une femme de prière, ma mère. Combien de fois on a jeûné, combien de fois on a tout essayé pour que elle puisse essayer de perdre poids d'une quelconque façon et ça n'a pas fonctionné.
Et toi, comment tu le vivais dans ton cœur d'enfant? Parce que là, t'as quoi? T'as 15, 16 ans là. Comment est-ce que tu vivais tout ça?
Alors franchement. Pour moi, ma mère, c'était la femme la plus belle au monde, franchement. Hormis ce que les médecins disaient, franchement, elle pouvait garder ses rondeurs, ça nous faisait absolument rien, mon frère et moi. Comment on le vivait, ben, on essayait à chaque fois de la rassurer, de lui dire « Maman, ça va aller, t'inquiète pas, on est là avec toi », en sachant que mon père aussi, il était à distance, donc il essayait de la rassurer à distance. Voilà. On faisait au mieux pour l'aider à mieux vivre la situation, mais c'est vrai que c'est pas facile. Moi, je me rappelle, c'était surtout quand on prenait les transports, c'était très difficile. Bah forcément, elle prenait de la place, 200 kilos. Voilà, quand elle voulait s'asseoir pour prendre un siège, elle prenait deux sièges. C'était pas un seul. Donc du coup, pour pas que les gens en parlent, ben je m'asseyais systématiquement à côté d'elle pour pas que ben elle prenne un peu de place sur la place de l'autre, quoi. Et donc elle était un peu moins gênée. C'est des techniques comme ça qu'on faisait avec mon frère pour essayer un peu de que les gens parce que bon, malheureusement les gens
Et vous voyez sa souffrance, en fait, vous pouvez le percevoir.
Pas les gens, peut-être que bah elle aime juste beaucoup manger, et puis voilà, mais c'était plus que ça. C'est que elle prenait du poids, elle pouvait manger des légumes, mais elle prenait quand même du poids. Donc, c'est un autre problème.
Et là, les médecins, du coup, ont proposé une autre intervention, c'est ça, pour un peu plus radical, pour pouvoir entrevoir une solution.
Voilà, et donc ils lui ont dit, écoutez, madame, là, on vous oriente vers la sleeve. Et donc, c'est une intervention qui consiste à couper une partie de l'estomac. Étant donné qu'elle avait été fragilisée à ce niveau-là, ils se sont dit que ce serait la meilleure option pour elle. Et qu'il y a du temps qui est passé. Hein, voilà, j'avais 15 ans quand on est arrivé. Du temps est passé. Et donc, arrivée à mes 18 ans, ma mère... Elle est face à cette situation, elle doit prendre une décision parce que le médecin lui dit, écoutez, madame, si vous faites rien, malheureusement, vous risquez de décéder au surpoids. Donc, elle avait déjà une machine parce qu'elle faisait de l'apnée du sommeil. Elle était déjà sous machine. Donc elle avait quand même des choses qui aggravaient sa situation au quotidien et il fallait qu'elle fasse quelque chose. Donc, elle a pris la décision, elle a dit, OK. tous ces examens, ils ont tout vérifié, tout était nickel, voilà, il y avait pas de souci, voilà, le go, elle a eu le go du médecin, ma mère, elle était contente, elle était rassurée, voilà, elle nous a rassurée aussi,
et toi aussi.
Voilà, on s'est dit bon, allez, on y va. Moi, à l'église, un an avant, donc à mes 17 ans, j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Bien que j'ai grandi dans une famille chrétienne, ma mère, elle nous a toujours dit, c'est une démarche personnelle. Quand vous serez en âge de comprendre, il faut passer par cette étape-là. Et j'ai pris cette décision et j'ai accepté voilà, le Seigneur Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Je suis vraiment tombée amoureuse de Jésus à l'âge de 17 ans. Et à partir de là, vraiment, moi, à l'église, on m'appelait Madame Jeune. Donc, moi, c'était les jeunes, la prière, jeune prière, jeune prière. Voilà, moi, je vivais, et jusqu'à aujourd'hui, je crois énormément aux jeunes, la prière, enfin, voilà. Pour moi, c'est indispensable. Dès qu'il y a un souci, OK, on va jeûner, on va prier, on va chercher la face de Dieu, on va se rapprocher de Dieu, parce que pour moi, une femme qui prie, une femme spirituelle est beaucoup plus puissante que, voilà, que n'importe quel être sur la face de la terre, parce que la femme, voilà, la femme, elle a, la parole le dit, et moi, je me suis basée sur cette parole. La femme, elle pense à un champ, elle l'acquiert. C'est que la femme, il y a quelque chose en elle qui fait que...
Je sens que tu as envie de prêcher sur la femme.
Et donc, du coup, bon, voilà, ma mère, elle prend la décision. Nous, on entre avec mes amis, je leur dis, écoutez, ma mère, elle va se faire opérer, s'il vous plaît. On prie, on a fait une chaîne de prières et tout, non-stop, on priait. Et ma mère, elle continue à me rassurer et tout. Je lui dis, bon, t'es sûre, maman, et tout, on y va. OK, on y va. Donc, la date arrive et tout, tout se passe bien. L'opération, voilà, arrivée le jour J, l'opération, tout se passe bien, nickel. Tout s'est bien passé, les médecins, ils étaient contents, tout le monde était content, on était tous soulagés, voilà. Ma mère, elle m'appelle, elle me dit, voilà, est-ce que tu peux passer me voir? Je dis, OK, maman, il n'y a pas de souci, je passe te voir et tout à l'hôpital. Elle était toute souriante, elle était contente. On parle et tout, et il y a un moment dans notre discussion, elle me dit, tu sais, hier soir, j'étais entourée d'anges autour de mon lit. Et donc, moi, bah, jeune chrétienne... voilà, les anges, j'avais pas beaucoup de connaissances et tout, mais je me suis dit, à l'intérieur de moi, je me suis dit, oh, il y avait des anges autour de toi. Oh, OK, d'accord, maman, bah, viens, on prie. Je lui ai dit naturellement comme ça, viens, on prie pour être sûr que tout va bien se passer et tout. Et j'avais à cœur de faire la prière du salut avec elle. Et donc, du coup, elle m'a dit, parce qu'on parlait comme ça, je lui dis, t'es sûre, s'il se passe quelque chose, t'es sûre que tu vas auprès du Seigneur et tout, t'es sûre d'avoir accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, maman. Elle me dit, mais oui, je suis sûre et tout. Je lui dis, bon, viens, on fait quand même la prière et tout. C'était vraiment, bon, pour moi, il n'y avait que ça dans mon cœur. Donc, je lui ai dit, écoute, on refait la prière, maman, on ne sait jamais et tout. Elle me dit, mais t'inquiète pas, tout va bien se passer et tout, ma fille. Je lui dis, OK, on fait la prière ensemble. On continue à papoter. Elle me parle de ses projets, elle me parle de tout. Et après, elle appelle mon petit frère. Mon petit frère aussi parle avec elle. Tout va bien, il n'y a aucun signe. Tout est nickel. OK. Donc, après, je la laisse et je rentre à la maison, rejoindre mon petit frère tranquillement. Voilà. Et à 4h du matin, là, je reçois un appel et malheureusement, c'était le médecin. Et là, le médecin, il m'annonce que ma mère a fait un arrêt cardiaque, en fait, dans la nuit et qu'ils ont essayé de la réanimer, mais il n'y avait absolument rien à faire. Et là, je me rappellerai toujours, enfin, toute ma vie, au moment où il m'annonce le décès de ma mère, enfin, j'entendais mon cœur battre dans mes oreilles. C'est, enfin, là, j'entendais absolument tout. Là, ma vie, elle a pris un tournant du jour au lendemain. Quand on parle de crise cardiaque, hein, là, on n'avait rien organisé, absolument rien. On n'a pas parlé de s'il se passe quelque chose ou quoi que ce soit. On n'a rien prévu, en fait. On n'a rien organisé parce que c'était pas une option, en fait. On n'a jamais pensé à ça. Il n'y avait rien d'organisé dans cette situation-là.
Et donc là, tu as 18 ans. Là, tu as 18 ans et ton frère a 14 ans, c'est ça. Voilà. Donc en fait, là, du jour au lendemain, tu te retrouves, tu es toute seule avec ton frère en France, ton père est en Guadeloupe et tu dois faire face à tout ça. Et c'est toujours ce qui est dur aussi dans ces périodes de deuil, c'est qu'il y a toute une partie logistique organisée, des funérailles organisées. Et du coup, c'est toi qui t'en es occupé à ce moment-là.
Voilà, c'est vraiment j'ai dû tout gérer, franchement. Et c'est là que je sais que c'est Dieu. Je sais que c'est Dieu parce que, enfin, la force, le caractère, enfin, même tous les gens qui me voyaient autour, ils étaient surpris en fait de comment je gérais la chose, comment j'ai pris en main les choses, parce que pour eux en fait c'était pas normal en fait. Normalement, je devais être en train de pleurer, enfin je devais être en train de enfin limite ne pas pouvoir prendre le relais en fait, parce que j'étais face à un décès, mais en fait si j'ai pris le relais et même au décès de ma mère, donc j'ai tout géré, j'ai informer tout le monde. Donc, la première personne que je devais informer, c'était mon petit frère. C'était difficile. On a pleuré ensemble. C'était vraiment dur. Le soir même, j'ai demandé à Dieu, s'il te plaît, donne-moi une réponse. J'ai demandé à Dieu de me fortifier, de, voilà, que je puisse entendre sa voix, qu'il puisse me dire que ça va aller, quoi. J'avais besoin d'entendre un, ne t'inquiète pas, ma fille, ça va aller. Et au moment où je parle, j'appuie sur une prédication, et dans la prédication, il était en train de dire tout est sous contrôle, tout est sous contrôle. Et ça a été un moment pour moi où je me suis dit, ok, c'est Dieu qui me parle, ça va aller. Et donc du coup, j'ai le carnet de ma mère, il y avait toutes les coordonnées de la famille, j'ai contacté chaque personne. C'était hyper difficile parce que il y avait des larmes, et moi j'essayais de contenir mes larmes, j'essayais de de faire les choses au mieux. Et en fait, je me retrouvais à devoir
consoler les autres.
Voilà, consoler. Alors qu'en fait, moi aussi, j'avais besoin d'être consolée, mais je savais que le temps arriverait pour moi. Et donc, du coup, j'ai informé la famille.
Ton frère est mineur, en fait. Donc, oui. Comment ça se passe à ce niveau-là pour lui?
Donc, il faut savoir que les enfants mineurs, ça se passe super vite. Donc, à ce moment-là, en fait, moi, direct, donc j'organise les obsèques de ma mère et tout. Mais il fallait que je puisse, comme je venais d'avoir mon bac, dans toute l'organisation, et c'est pour ça que moi, je crois que tout est relié dans la vie. Pendant l'été, j'avais travaillé avec ma mère en tant qu'aide de vie. Donc ma mère était aide-soignante, j'ai travaillé avec elle en maison de retraite en tant qu'aide de vie, et tout l'argent que j'avais eu pendant l'été, j'avais plein de projets et tout avec cet argent-là, mais finalement je suis pas passée à l'action, j'ai gardé cet argent-là, je me suis dit finalement c'était pas si utile que ça ce que je voulais faire, j'ai gardé cet argent. Et donc en fait Dieu a bien fait les choses, parce que c'est cet argent qui nous a permis de tenir le cap. Et donc directement, qui dit enfant mineur, il fallait que je puisse avoir l'autorisation légale de garder mon frère. Parce que un enfant mineur, automatiquement, c'est l'ASE qui prend le relais. Du coup, la DAS pour le placement. Et donc moi, ce que j'ai fait, c'est que il y a un ami, j'ai demandé à un ami de ma mère, écoute, s'il te plaît, il faut absolument que je puisse trouver un travail. J'ai fait un CV. La semaine même de l'enterrement de ma mère, j'ai fait un CV. C'est comme si, en fait, j'avais toutes les instructions qu'il fallait que je suive. Je savais exactement ce qu'il fallait que je fasse. J'ai fait un CV. Je lui ai donné le CV. J'ai dit, s'il te plaît, il y a forcément un poste à prendre. Il me faut simplement un salaire pour que je puisse subvenir aux besoins du foyer et montrer que même avec le départ de ma mère, je peux subvenir à la maison. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de souci. Il a déposé le CV à son travail. La semaine d'après, on m'appelle et il y a un entretien qui il y a un entretien où il faut que détail. Je vais à l'entretien. Ils sont convaincus. Ils ne savent pas. Hein. Je n'ai pas parlé du décès de ma mère, rien du tout. Ils ne savent pas. Je passe mon entretien. Vous êtes prise, mademoiselle. Vous pouvez commencer. Je commence le lendemain. Donc, c'était dans une usine où il fallait faire de la maintenance. Comment on appelle ça?
Donc là, à 18 ans, tu te retrouves à travailler à temps plein et du coup aussi avec la responsabilité de ton frère de 14 ans. Tout ça en venant de perdre ta maman, parce que là, on parle de 2 semaines en fait. Là, on est à 2 semaines de la perte de ta maman. Et là, direct, toi, tu rebondis, tu prends les choses en main, tu gères tous les papiers aussi, tout ce qu'il y a, le logement. Est-ce que vous avez pu rester dans votre logement?
Donc je me suis battue parce que il n'y avait pas mon nom, mais j'ai pu prouver que j'avais un travail et donc du coup le timing il était parfait. Ils m'ont dit ok mademoiselle, nous sommes désolés pour ce qui s'est passé. Ils m'ont proposé on avait un F3, donc c'était trop grand pour nous deux. Ils m'ont proposé un logement plus petit. Je leur ai dit s'il vous plaît, là on a besoin de ne pas bouger pour le moment. Pour la stabilité émotionnelle, pour notre stabilité émotionnelle, il faut absolument qu'on puisse ne pas bouger. Peut-être après, voilà, je vous solliciterai pour le moment. Là, tout de suite, on a déjà eu assez de chamboulements. Je voulais pas, en fait, qu'on bouge. Et donc, du coup, ils me disent, OK, pas de souci. Il y a pas de souci, vous pouvez rester. Donc ils ont changé le nom, le bail, et ils ont mis mon nom. Mais j'ai trouvé grâce parce que normalement ils font pas ça. Donc c'est encore une fois, j'ai parlé beaucoup de grâce parce que à chaque fois, on me disait normalement on fait pas ça, mademoiselle. Mais écoutez, là exceptionnellement, on va faire ça à chaque fois. Et je priais tout le temps, Seigneur, s'il te plaît. Permets-moi d'être dans ta grâce de l'exception. Permets-moi d'être dans le exceptionnel. Permets-moi d'être, même si j'y ai pas droit, s'il te plaît, exceptionnellement, puisse me permettre. Et à chaque fois, c'était ça. C'était, OK, on fait pas comme ça d'habitude, mais je sais pas pourquoi. OK, exceptionnellement, on va faire ça pour vous. À chaque fois, c'était tout le temps comme ça. OK, on fait pas comme ça d'habitude, mais OK, mais mademoiselle, vous, exceptionnellement, on va faire ça. Et franchement, ma vie, ça a été ça.
Mon histoire. Tu es restée connectée à. Ok. Excuse-moi, je t'ai coupé. Je voulais te demander, tu es restée connectée à Dieu depuis tout ce temps et tu n'as pas eu pourquoi Dieu a pris ma mère ou des questions comme ça. Quels étaient tes sentiments, tes émotions? Comment tu as géré à ce niveau-là avec tout ce qui t'était tombé dessus?
Alors, au début, donc. Non, au début c'était difficile parce que rappelez-vous, je vous ai dit j'ai fait chaîne de prières et tout, je comprenais pas. Je disais Seigneur, j'ai mis en place plein de choses, j'ai jeûné, j'ai prié. Au début j'étais en colère, parce que je me suis dit Seigneur c'est pas possible, comment ça se fait que on vive quelque chose alors que j'ai tout pratiqué, j'ai pris la parole, j'ai décortiqué tout. Comment ça se fait que on vit une situation comme ça? Et à chaque fois que je parlais avec Dieu, j'avais toujours des réponses. Dieu, il parle toujours. J'avais toujours des réponses. Si c'était pas dans l'enseignement du dimanche, c'était dans un enseignement que j'écoutais. Si c'était pas dans un enseignement que j'écoutais, c'était quelqu'un qui venait et qui comme ça, que je connaissais pas, qui allait me dire quelque chose de réconfortant. Par exemple, il y a une dame, elle a été touchée. Je priais, je disais, Seigneur, on a besoin de tant d'argent. Il y a une dame, elle a été touchée par le fait que ma mère est décédée. Elle a été chez les voisins. On habitait à cette période-là sur une esplanade. Et elle a été toquée à chaque porte de l'esplanade. C'était vraiment une grande esplanade. Elle a été toquée à chaque porte pour dire, s'il vous plaît, il y a 2 enfants qui sont orphelins de leur maman. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez donner quelque chose? Et elle a fait une grosse enveloppe. Quand je vous dis une grosse enveloppe, c'est surnaturel. Elle est venue me voir. Et ce jour-là, elle avait même pas mon, j'avais pas de téléphone, j'avais absolument rien. Elle vient, elle me croise. Elle m'attrape, elle me dit, petite, c'est toi que je cherchais. Et je la regarde, je dis oui. Elle me dit oui, ta maman est décédée. J'ai dit oui. Et elle m'a dit, tu sais, voici, Dieu a touché mon cœur, mais voici,
tous les voisins, on a donné ce qu'on pouvait. Voici cet argent-là. Et franchement, je vous assure, quand j'y repense, c'était surnaturel. J'avais la chair de c'était exactement la somme dont j'avais besoin. C'était exactement la somme dont j'avais besoin à cette période-là, parce que j'avais calculé combien il me fallait pour pouvoir tenir. Mmh. Et donc, avec cette grosse enveloppe, on a pu tenir avec mon frère pendant 3 mois. J'ai pu faire les courses, j'ai pu payer des factures, j'ai pu le temps vraiment de que tout s'enclenche. En fait, tout était relié. C'était vraiment surnaturel. Par exemple, même pour faire des démarches, quand je vous dis que je dépendais de Dieu, je dépendais totalement de Dieu. C'est que à 18 ans, on connaît rien. Enfin, franchement, même si je faisais des trucs pour ma mère, elle me disait quoi faire. Là, j'avais plus personne pour me dire Nancy, il faut que tu fasses ça. Et donc là, et puis chacun a sa vie, vous savez. Enfin, moi, je suis dans une grande famille, mais ça va tellement vite, le quotidien et tout. Donc, c'était pas possible que mes tantes, elles viennent venir avec moi des papiers. Il fallait que je me bouge. Et donc, du coup, pareil pour les impôts. Pareil pour par exemple la gestion du compte bancaire de ma mère, par exemple pour l'enterrement de ma mère. Pour ceux qui savent pas, il y a un temps où on a le droit d'avoir accès en fait dans les cas du décès, on a le droit d'avoir accès au compte pour pouvoir faire justement l'organisation des obsèques et tout. Et en fait, j'ai pu grâce à la conseillère financière de ma mère, j'ai pu utiliser l'argent pour justement organiser ses obsèques, et elle a eu un très bel obsèque, ma mère. Et franchement, ça a été un moment béni. Ma famille, ils ont été touchés, j'ai chanté Oh Happy Day le jour du décès de ma mère. Voilà, ils ont pas trop compris et tout, mais pour moi c'était une promotion. Donc au-delà du côté que oui, les êtres que nous aimons nous laissent, mais c'était une promotion pour elle. Elle était partie pour le Seigneur. Et franchement, ce jour-là, je me rappellerai tout. Ils étaient choqués parce que ils se sont dit, mais comment cette petite est faite pour pouvoir organiser tout et continuer à vivre, continuer à faire les choses. Et franchement, moi, mon but, c'était vraiment, et j'ai toujours dit que de tout ça, que Jésus soit glorifié. Je voulais que de tout ça, que Jésus soit glorifié. Et donc, du coup, pareil, pour la conseillère financière, à chaque fois, elle me disait, oui, comment vous faites et tout. Je lui expliquais, je lui montrais ma gestion financière. Et elle était super éduquée. Et je lui disais, oui, je suis chrétienne. Et franchement, voilà, c'est Dieu qui m'aide tous les jours et tout. Enfin, moi, tout ce que j'ai vécu, j'ai toujours utilisé ça comme témoignage, comme moyen d'évangélisation, pour pouvoir dire, vois ce que le Seigneur a fait.
Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es sentie peut-être plus faible, et comment t'as géré à ce moment-là, dans tout ce que tu as traversé, parce que tu nous dis quand même des choses difficiles, mais on a l'impression que ça roulait, quoi. Mais est-ce qu'il y a des moments où tu sentais que tu étais en position de faiblesse, et comment tu faisais du coup dans ces moments-là?
Alors franchement, tous les jours, j'étais en position de faiblesse. Tout ce que je vous raconte là, j'étais tous les jours en position de faiblesse, et tous les jours, j'avais besoin de Dieu. Sur ma porte de ma chambre, par exemple, j'avais écrit plein de versets pour pouvoir me fortifier. J'avais besoin de mon oxygène. Je ne pouvais pas sortir de chez moi sans prier. Mon frère, il me disait, mais si, est-ce que tu dors? Ça t'arrive de dormir? Moi, j'avais besoin, c'était vital pour moi de prier. J'avais besoin d'un moment de communion, j'avais besoin de lire ma Bible, j'avais besoin de rester connectée à Dieu, parce que c'était mon oxygène. Enfin, jusqu'à aujourd'hui, enfin, Dieu, c'est mon oxygène. Je peux pas me permettre pour moi d'affronter cette vie sans Dieu. C'est impossible. Je ne sais pas comment certains font, mais sortir de chez moi, affronter la vie, on ne sait pas ce qui se passe. Non, j'ai besoin de mon oxygène. Et mon oxygène, c'est mon moment avec Dieu. C'est mon moment à parler avec Dieu. C'est mon moment à écouter. C'est mon moment où il va venir me réconforter, me consoler. Et en fait, c'est ça qui m'a fait tenir. C'est chaque jour, j'avais besoin de ce moment-là avant d'aller travailler. Parce que vous imaginez, à 18 ans, aller travailler à nuit, c'est dur. Parce que tous les autres
C'est ça qui est vraiment beau dans ton histoire, c'est, comme je disais, à la fois, tu as été très courageuse, mais de voir que ce courage était surnaturel. Et c'est vrai que quand on écoute ton histoire, on oublie que tu avais 18 ans. À un moment donné, il faut se le rappeler. OK, elle avait 18 ans. Et c'est ça qui est surnaturel dans la bonté de Dieu. Et donc, vu que tu avais 18 ans, tu venais de passer ton bac, est-ce que tu avais aussi des projets d'études?
Ah oui, j'avais des projets d'études, donc moi j'avais à cœur d'aller dans une école de commerce. Donc voilà, vraiment le truc, il faut avoir de l'argent et tout. Et moi, mon père, il était en train de... Déjà, mon père, il a mal vécu le décès de ma mère. Mm-hmm. Donc voilà, j'étais un peu en train de consoler mon père aussi. Besoin de lui demander d'argent. Et il me disait, écoute ma chérie, là, ça va pas être possible. Voilà. Donc, en fait, j'ai une amie en fait qui est rentrée dans une école de commerce. Je lui ai dit, écoute, s'il te plaît, est-ce que tu peux me déclencher un rendez-vous avec le directeur?
Wow.
Et voilà, j'y suis allée à l'audace. J'ai dit, écoutez, s'il vous plaît, monsieur, j'ai pas les finances pour pouvoir payer l'école, mais je suis déterminée. Je suis vraiment motivée. S'il faut travailler, je vais travailler. D'ailleurs, je travaille déjà. Mais s'il faut que je puisse faire plus, je ferai plus. Mais s'il vous plaît, investissez-vous en moi. Et moi, derrière, je vous rendrai vraiment tout ce que vous aurez investi, je vous rendrai. Ça, comptez sur moi. Et franchement, il m'a dit, écoutez, on va faire un entretien ensemble. Il m'a reçu. Bon, quelques jours après, il m'a reçu. Et là, il m'a dit, quel est votre projet? Il m'a demandé un petit peu, je lui ai expliqué, ma mère était décédée, mm-hmm. que j'avais mon frère à charge, mais j'aimais le commerce puisque, voilà, j'ai grandi, mon père, il est entrepreneur, j'ai vu ce qu'un entrepreneur doit faire, toutes les casquettes qu'il doit avoir. Et pour moi, c'était important de passer par la case école de commerce pour pouvoir en apprendre plus, pour pouvoir me développer et pour ensuite, voilà, moi aussi, éventuellement me lancer dans différents projets entrepreneuriaux par la suite. Et donc, du coup, il m'a écouté, il m'a dit, écoute, voilà, je crois que tu es déterminée. Mmh. OK, je vais miser sur toi. Ce qu'on va faire, c'est que je vais t'inscrire puisqu'il avait un pôle alternance. Et donc, du coup, il m'a dit, je vais t'inscrire dans cette partie-là. Maintenant, c'est toi et ta chance. Tu vas passer des entretiens. On va te donner un coup de pouce. Mais il faut que toi aussi, tu puisses saisir tes opportunités. J'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Laissez-moi ma chance et tout. J'ai passé des entretiens. Et j'ai eu des entreprises magnifiques. Chaque année, d'entreprise. C'était dur, hein. Franchement, c'était dur. Tout ce que je vous raconte là, c'est faut le vivre pour le voir. Enfin, mais c'était extrêmement dur. C'est que je suis passée, j'étais salariée à temps plein. Donc à cette période-là, je devais gagner 1005 à peu près. Et là, je reprenais mes études. Donc entre-temps, mon frère, il a grandi, hein. On a attendu en fait que mon frère ait ses 18 ans. Mon frère, lui, il avait un projet. Il voulait se lancer dans tout ce qui était mannequinat, danseur professionnel. Mais il a d'abord validé son diplôme d'hôtellerie-restauration. C'était l'engagement qu'on avait. Je lui ai dit, écoute, moi, l'art... En fait, on a deux profils différents, mon frère et moi. Lui, il est artistique, mon frère. Et moi, je suis carré. Je suis structurée dans ma manière de voir les choses. Donc, on est vraiment deux univers différents. Mais franchement, ça nous a permis d'être équilibrés à la maison et tout. On a réussi à s'en sortir comme ça. Et donc, c'était ça le deal avec mon frère. Lui, il devait valider son diplôme. Et ensuite, il a réussi. Il a eu des contrats dans le mannequinat, ce qui m'a permis, en fait, de pouvoir aller chercher, reprendre mes études. Lui, derrière, il avait des entrées d'argent. Et donc, il m'a dit, écoute, Sissi, t'as géré et tout. C'est à mon tour. Donc, moi aussi, je vais apporter. Et comme ça, toi, tu vas pouvoir reprendre tes études. J'ai dit, OK, super, merci beaucoup. Et donc, du coup, j'ai pu aller trouver mes entreprises en alternance. On n'avait pas de trous financiers. Et grâce aux alternances, j'ai pu passer, en fait, mes 5 années master. Je suis sortie parmi les meilleures. Franchement, j'ai tenu ma parole. Merci. coup, c'était dur parce que des fois, enfin, qui dit alternance, voilà, j'ai fait des heures pas possibles, mais j'ai tenu mes engagements. Voilà, quand s'il fallait que je sois là, j'ai eu des petits boulots à côté en plus de mes alternances. Donc le matin tôt, je me levais 5h du matin. Ensuite, j'allais distribuer des flyers, ça c'était mon premier job. Ensuite, j'entamais ma semaine d'alternance en entreprise. Et parfois, quand j'étais en cours, si j'avais des trous, je trouvais des petites heures supplémentaires pour pouvoir encore aller distribuer des flyers, pour pouvoir compléter l'argent chaque mois, quoi. Donc, j'avais
des. Là, Nancy, je vais t'annoncer une nouvelle qui va te choquer, c'est que on a passé 40 minutes ensemble. Je sais, le temps passe vite à raconter, en tout cas tout un épisode de vie en quelques minutes. C'est pas toujours facile, mais on arrive au bout de notre temps ensemble. Et je voulais quand même souligner que entre temps aussi, ton frère avait rencontré le Seigneur alors que vous étiez tous les deux ensemble. Et ça aussi, c'est un beau témoignage. Bon, malheureusement, on n'aura pas forcément le temps de développer. Mais comme on l'a dit, je veux vraiment insister sur la fidélité. Et la bonté de Dieu, parce que tu es non seulement t'as pas juste survécu, c'est que tu vis dans l'abondance que Dieu avait pour toi, dans les bénédictions que Dieu avait pour toi. Et aujourd'hui tu es mariée, aujourd'hui tu as des enfants, tu as un emploi, etc. Et c'est là où on voit la restauration. Et en écoutant ton histoire, on peut se dire, c'est vrai, il y a des moments où la tragédie nous frappe et puis ça peut être fatal pour certains parce que on voit pas trop d'espoir. Mais comme tu nous l'as dit, tu t'es accroché au Seigneur et c'était ton oxygène. Et je veux vous encourager, vous qui passez par des temps difficiles, peut-être que vous voyez pas la lumière au bout du tunnel, vous dites, ouais, mais moi, j'ai pas la force de cette femme. Mais cette femme, elle a puisé sa force en Dieu. C'est lui qui est la force. Et je crois qu'il va aussi vous donner la force. Et c'est le jour où il veut venir vous visiter pour vous fortifier et pour vous relever et pour que, à nouveau, vous puissiez rêver, qu'à nouveau, vous puissiez, peut-être allumer la lumière chez vous, vous doucher, vous habiller. Et puis commencer à rêver à nouveau, commencer à entrevoir cet avenir qu'il a pour vous, ce n'est pas trop tard. Et écoute Nancy, je vais te dire encore merci d'avoir partagé ton histoire, d'avoir en tout cas une partie de ton histoire. Et tu voulais ajouter rapidement avant qu'on termine?
Merci beaucoup pour l'invitation, vraiment. Dieu, il est présent, il parle, il répond, il est fidèle, il est avec nous tous les jours. Et j'espère vraiment que... Là, c'est une jeune fille de 18 ans, j'avais pas connaissance de tout, mais malgré tout, enfin, Dieu a pu m'utiliser pour pouvoir faire différentes choses. Et aujourd'hui, oui, comme tu as dit, je suis mariée. Mon frère aussi, il est marié, il a un enfant. Nous sommes équilibrés. La parole est réalisée. Nous sommes multipropriétaires avec mon mari. Donc vraiment, nous sommes bénis aujourd'hui. Donc c'était des moments douloureux, c'était pas facile, mais ça ne reste jamais comme ça. Ça ne reste jamais figé. Et en tout cas, nous, on aime bien dire que l'objectif, c'est d'avoir un happy end et donc de pouvoir glorifier Dieu dans tout ça jusqu'au bout.
Amen. Merci Nancy, merci à vous tous de nous avoir suivis et on se retrouve vendredi pour un prochain épisode de À table avec Annabelle et on se dit bye bye.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires de MCI. Retrouvez toutes les émissions À table avec Annabelle sur emcitv.com.